VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce vendredi 1er mai 2015. À la une ce soir.
Au Burundi, sur fond de tensions et de protestations, les responsables électoraux commencent à recevoir les déclarations de candidature.
L'ONU et la France, critiquées par le barreau de Bangui dans le cadre des présumés viols sur mineurs par les soldats français et africains.
Violence dans le nord du Mali, une attaque attribuée à la coordination des mouvements de l'Azawad aurait fait un mort hier à Binta Gungu.
Ici aux États-Unis, 6 policiers seront poursuivis au pénal pour la mort d'un jeune noir à Baltimore, théâtre de manifestations violentes en début de semaine.
Nous verrons aussi comment la fête du travail a été célébrée en Afrique et ailleurs.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Burundi, la commission électorale a commencé à recevoir les déclarations de candidature à la présidence. Le pays a assisté à une fête du travail particulière, le défilé traditionnel ayant été délocalisé pour éviter les manifestants. Par ailleurs, des étudiants chassés des résidences universitaires ont passé la nuit devant l'ambassade américaine, dont ils demandent l'intervention. Le point avec Eddy Isango.
C'est sur le terrain de football d'une école de la périphérie de Bujumbura que le défilé a eu lieu. Bien loin des quartiers où se tiennent régulièrement des manifestations contre un troisième mandat de Pierre Nkurunziza. La grande partie de la population qui n'y a pas pris part est restée cloîtrée. Certains quartiers, notamment ceux du sud de Bujumbura, ressemblent désormais à des camps fortifiés. Non seulement qu'ils soient verrouillés par la police qui en contrôle les accès, ils sont de plus barricadés par des manifestants qui ont eu le temps d'y entasser davantage des carcasses des véhicules et semblent mieux organisés qu'avant. Selon l'AFP, de jeunes gens se relaient jour et nuit, montant la garde, bâton à la main pour empêcher les forces de sécurité d'y pénétrer. Dans le même temps, des étudiants dont les résidences ont été fermées pour des raisons de sécurité selon les gouvernements continuent à faire les pieds de grue devant l'ambassade américaine, ne pouvant pas rejoindre l'intérieur du pays à cause des multiples barricades. En réaction, l'émissaire du département d'État américain, Tom Malinowski, a appelé le gouvernement burundais à ne pas laisser la situation dépasser un point de non-retour. La présidentielle burundaise est prévue le 26 juin. Si Pierre Nkurunziza ne cède à la pression, il pourrait entre autres faire face à Agathon Rwasa, ancien rebelle Hutu.
En Centrafrique, le barreau de Bangui s'insurge contre ce qui, à son avis, est une tentative de l'ONU et de la France d'étouffer l'affaire de viol sur les enfants impliquant des militaires français et étrangers, notamment tchadiens et équato-guinéens engagés dans l'opération de maintien de la paix. Écoutons Maître Bruno Biegba, membre du réseau des ONG des droits de l'homme à RCA, au micro de Félix Yepassi Zembro.
Les Nations Unies ainsi que la France ont voulu cacher cette affaire. N'eût été la vigilance d'une ONG anglaise. Et lorsque vous suivez les réponses maladroites de certains responsables militaires français qui disent que non, ils n'ont pas voulu interférer dans la procédure. Mais non, il fallait d'abord informer l'opinion internationale que certaines brebis galeuses au sein de l'armée française ont commis des faits graves. On sait que l'armée française est une armée d'élite composée de bons éléments, mais il n'en demeure pas moins que ces brebis galeuses, il fallait dénoncer leur mauvais comportement. Mais nous n'avons pas compris pourquoi on a voulu cacher cette affaire. Et si cette ONG anglaise n'avait pas révélé, ben on ne serait pas informé. Vous voyez même qu'au niveau de la RCA, le parquet était étonné. Et c'est pour cette raison que nous déplorons ce mauvais comportement de certains responsables de l'armée française qui ont voulu cacher cette affaire, ainsi que certains de ceux des Nations Unies qui avaient aussi voulu ne pas que cette affaire-là voit le jour.
Maître Bruno Hyacinthe Biegba, membre du réseau des ONG des droits de l'homme en Centrafrique.
Et violence dans le nord du Mali, une attaque attribuée à la coordination des mouvements de l'Azawad aurait fait un mort hier à Binta Gungu. 6 personnes auraient également été enlevées. Le maire de cette localité cité par l'AFP rapporte que plus de 50 hommes armés de cette rébellion à dominante Touareg sont venus jeudi semer la terreur. Selon lui, une vingtaine de boutiques et un dispensaire ont été pillés, 2 véhicules ont été emportés. Les assaillants, ajoute le maire, avaient le drapeau de la CMA.
Au Niger, des prières pour les victimes de Boko Haram ont été organisées en lieu et place du traditionnel défilé du 1er mai. Ce recueillement organisé aussi bien dans les mosquées que dans les églises commémorait notamment les 74 personnes tuées le 25 avril lors d'une attaque contre une position militaire à Karamga. Nous avons prié pour que cette guerre prenne fin le plus vite possible et que Dieu fasse échec à ces sauvages de Boko Haram, a déclaré Soumaïla Bagna, un leader syndical cité par l'AFP.
Au Togo, l'opposition dit n'avoir intenté aucune action légale pour contester le résultat de l'élection présidentielle du mois dernier. Un scrutin qu'elle juge frauduleux et qu'elle affirme avoir remporté face au président sortant Faure Gnassingbé, déclaré vainqueur. Nous n'avons pas fait de recours. Nous considérons que la Cour constitutionnelle est inféodée au régime togolais, a déclaré à l'AFP Éric Dupuis, porte-parole du principal candidat de l'opposition Jean-Pierre Fabre. Et si la Cour constitutionnelle faisait son travail, elle se serait auto-saisie à critiquer M. Dupuis, cité par l'AFP.
Au Gabon, le cercueil de l'opposant gabonais André Mbaobam, décédé au Cameroun le 12 avril, a été accueilli aujourd'hui par plusieurs milliers de sympathisants à l'aéroport d'Oyem, dans le nord du Gabon, sa région natale. D'après l'AFP, cette arrivée a été précédée d'affrontements entre militants et forces de l'ordre.
Au Sénégal, le gouvernement a réduit les salaires des enseignants du primaire et du secondaire en grève depuis décembre. Les salaires de beaucoup de nos camarades ont effectivement été ponctionnés fin avril, a confirmé vendredi à l'AFP Ndongo Sarr, un responsable syndical. En face, le gouvernement rappelle que le salaire n'est pas dû par le gouvernement pendant les jours de grève non travaillés.
Pour parler de paix au Soudan du Sud, le secrétaire général de l'ONU soutient la nouvelle formule de négociation proposée par l'IGAD, l'organisation intergouvernementale est-africaine, médiatrice dans le conflit.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la procureure en chef de Baltimore a annoncé ce vendredi des poursuites pénales contre les 6 policiers impliqués dans l'arrestation de Freddie Gray. La mort du jeune noir de 25 ans a suscité une série de manifestations parfois violentes à Baltimore et dans d'autres villes américaines. Des précisions avec Saloua Jafari.
Officer Goodson is being charged with second degree depraved heart murder, involuntary manslaughter, second degree negligent assault.
Une décision plutôt rapide, vu que le rapport des enquêteurs de la police sur l'interpellation et la mort de Freddie Gray a été transmis à la justice hier jeudi. Le bureau de la procureure avait bien précisé lors que toute action prendrait en compte non seulement ce document de la police, mais aussi des faits et données recueillies d'autres sources. En annonçant l'inculpation des 6 policiers ce matin, la procureure Marilyn Mosby a souligné la conclusion du médecin légiste qualifiant d'homicide le décès de Freddie Gray le 19 avril dernier. Ce dernier avait été arrêté une semaine auparavant. Tandis qu'il était dans un fourgon de la police, il a subi des blessures fatales à la colonne vertébrale et n'a pas reçu, a dit la procureure, l'assistance requise en pareille circonstance. Avant l'annonce de la procureure, les autorités de Baltimore et de l'État du Maryland avaient multiplié les appels au calme et à la patience. Et Maître Marilyn Mosby en a fait autant à la fin de sa communication aujourd'hui.
You're at the forefront of this cause. And as young people, our time is now.
Vous êtes à l'avant-garde de cette cause et en tant que jeune, le moment pour vous d'agir, c'est maintenant, a dit la procureure. Précisant que l'enquête se poursuit, elle a fait aussi état d'un mandat d'arrêt contre les policiers inculpés.
A signaler que l'inculpation des policiers impliqués dans le cas de Freddie Gray a été saluée par des célébrations spontanées dans les rues de Baltimore. À la Maison-Blanche, le président Barack Obama a rappelé que les accusés méritent un traitement conforme à la loi. Il a aussi jugé aujourd'hui absolument crucial que toute la vérité soit faite sur la mort de Freddie Gray.
Défilés et autres manifestations à travers le monde à l'occasion de la fête du travail. Camille Gros-Didier.
Au Niger, signale notre correspondant, des prières collectives devaient remplacer le traditionnel défilé après qu'une attaque des islamistes de Boko Haram samedi sur le lac Tchad eut fait au moins 74 morts. En Indonésie et aux Philippines, où nombre d'employés gagnent moins de 2 dollars par jour, des milliers de personnes ont défilé en faveur d'augmentation de salaire et de la fin des contrats temporaires qui les privent des moindres avantages sociaux. En Iran, des travailleurs ont protesté contre la main-d'œuvre étrangère qui, selon eux, accapare des emplois. À Istanbul, la police turque n'a pas laissé les manifestants atteindre la place Taksim ce vendredi. Elle est intervenue pour disperser plus d'un millier de personnes qui souhaitaient célébrer le 1er mai sur le site, décrété zone interdite par le gouvernement. Les syndicats grecs avaient lancé le mot d'ordre de grève générale de 24 heures. Et ici, aux États-Unis, des défilés du 1er mai devaient être l'occasion pour les protestataires de dénoncer la mort de Freddie Gray, un noir de 25 ans décédé des suites de blessures subies après son interpellation musclée à Baltimore, dans le Maryland.
Un dialogue inter-afghan doit s'ouvrir demain à Doha, au Qatar, entre représentants du gouvernement de Kaboul et des talibans, du Haut Conseil afghan pour la paix, d'experts indépendants et d'autres groupes armés en Afghanistan. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Nathalie Barge.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé à l'occasion de la fête du travail le déblocage des salaires de tous les fonctionnaires à compter de ce 1er mai, indique l'agence de presse africaine. La fonction publique ivoirienne est régulièrement secouée par des mouvements de grève à revendications salariales. La déclaration de Brazzaville, publiée à l'issue de la conférence internationale sur la lutte contre les crimes liés à la flore et à la faune, a appelé l'Union africaine à désigner des champions de cette lutte parmi les chefs d'État africains pour faire avancer la cause. La conférence a été l'occasion d'annoncer une stratégie panafricaine de lutte contre le commerce illicite des ressources naturelles d'Afrique. Écoutez Anthony Oemeng Boama, le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Brazzaville.
C'est les chefs d'État de l'Union africaine qui doivent adopter, je dirais, la stratégie finale. Donc il y a un brouillon qui sera discuté au Caire le 24 mai pendant une réunion des ministères africains. Les suggestions seront tenues en compte, qui va permettre à l'Union africaine de travailler avec le Congo pour sortir notre brouillon que le Congo doit présenter à travers son chef d'État à la réunion de chefs d'État de l'Union africaine prévue pour le mois de juin.
En cette journée de la fête du travail, le président kényan a annoncé une augmentation du salaire minimum. Il passe de 101 à 113 dollars, soit une hausse de quelque 8,45%, alors que les syndicats réclamaient 200% de hausse.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie.
L'actualité sportive avec Timothée Donangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Gabi.
Un week-end décisif pour les compétitions africaines interclubs.
Et oui Gabi, on joue les huitièmes de finale retour en Ligue des Champions. Le SETIF accueille ce soir même le Raja de Casablanca, les deux clubs s'étant séparés à l'aller sur le score de 2-2. Le reste du week-end, on aura notamment Smouha contre AC Léopard Dolizy, 1-0 à l'aller pour Dolizy. Al-Ali reçoit Maghreb Tétouane, victorieux 1-0 à l'aller. Le tout-puissant Mazembe reçoit le stade malien après leur 2-2 de l'aller. L'Espérance de Tunis offre l'hospitalité à El Merrek, vainqueur 1-0 à l'aller. Et puis il y a aussi la Skaloum qui n'a pas digéré sa défaite 2-1 à l'aller et qui reçoit l'US Alger.
Coup d'œil à présent sur la Coupe de la Confédération.
Deux beaux duels en perspective ici également, Gabi. Le club africain et Amel Sadd tenteront de se départager après leur nul, un but partout à l'aller. Même chose pour l'étoile sportive du Sahel qui reçoit Young Africans. Avantage psychologique pour la SEC Mimosa qui reçoit le 11 créateur après s'être imposé 1-0 à l'aller. Toujours en Coupe de la Confédération, les Hearts of Oak accueillent le Djoliba qu'ils avaient défait 2-1 à l'aller et l'ASV de Kinshasa reçoit Royal Leopards victorieux 1-0 à l'aller.
Suite des playoffs de la NBA.
Les Bulls de Chicago ont écrasé hier les Milwaukee Bucks dans leur salle 120-66 lors du match numéro 6 de cette série du premier tour. Les Bulls qui gagnent par 4 victoires contre 2 dans la conférence Ouest. Les Clippers de Los Angeles sont tenus tête à San Antonio avec 7 victoires de justesse 102-96. Les deux équipes sont à égalité, 3 victoires partout et devront aller au 7e match.
Et à Las Vegas, le Philippin Manny Pacquiao demain face à l'Américain Floyd Mayweather en boxe. faut dire que les parieurs misent sur Pacquiao contre Mayweather. Merci Timothée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorcel et Morgane Guériec au studio 13 de VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Quelques 200 000 Centrafricains se sont réfugiés au Cameroun pour échapper au carnage dans leur propre pays. Le correspondant de la VOA à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka, est allé à la rencontre de certains d'entre eux alors que la République centrafricaine s'apprête à tenir la semaine prochaine à Bangui le Forum pour la réconciliation nationale. Son reportage vous est présenté par Timothée Donangmaï.
Belmond Ouzé, un leader religieux de 35 ans, est un émissaire centrafricain. Malgré ses explications sur le forum de Bangui et les espoirs suscités par la rencontre, il a du mal à convaincre les réfugiés qu'il a rencontrés à Yaoundé. L'un d'entre eux, le laveur de voiture Anselme Blaise Kaminga, est encore traumatisé par le meurtre brutal de sa femme et de ses enfants à Bangui. Et il n'est pas intéressé par une réconciliation qui, selon lui, pourrait aboutir à la liberté pour les responsables de l'effusion de sang.
Je n'ai plus aucune famille pour rentrer. Donc pour le moment, ma décision était que j'ai d'affaire à refuser de plus. Ah, si la paix revient, c'est aussi bien.
Le vigile David Zamgan est un ancien étudiant de l'université de Bangui. Pour lui, le plus important, c'est un gouvernement crédible pour entamer le processus de guérison des plaies dans le pays plutôt qu'une initiative de la communauté internationale.
Dans tout pays où il faut aller dans le bon sens, où il faut la paix, il faut toujours qu'il y ait élection pour que toute une libération soit vécue, quoi.
Marchand ambulant, Simon-Pierre Makdongou, un autre ancien étudiant de l'université de Bangui, n'est pas non plus optimiste. L'histoire politique de la Centrafrique est marquée, dit-il, par la division et il ne voit aucune solution possible.
Non. Avec les dégâts, tout ce que j'ai vu, je n'ai pas le courage de rentrer plutôt vers l'avant.
Un point de vue que partage Djenge Diane, qui vend des arachides à Yaoundé. Elle a fui Bangui il y a un an.
Non, je ne rentre pas. Même maintenant, même il a parlé là-bas, il dit que le guerre, chaque jour, ça a commencé encore. Je ne pars pas. Le pays, c'est bon, je pars, mais le pays, ce n'est pas bon, je ne pars pas. C'est toujours le guerre encore.
Guy Libéry Dimanga, une des rares voix optimistes, a trempé dans la violence en RCA. Mais il faut, estime-t-il, tourner la page et s'atteler au développement de la Centrafrique.
Que la peine règne, que tout aille bien. Je n'ai pas de rancune, de problème avec quelqu'un d'autre. Donc que la paix aille bien, que la guerre s'arrête.
Les travailleurs humanitaires, pour leur part, comptent beaucoup sur le succès du forum de Bangui. Selon un officiel de l'ONG Friends of Refugees, des Centrafricains sont venus demander de l'aide, notamment dans le domaine du transport, pour retourner chez eux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Célébration de la fête du travail au Burkina Faso, les travailleurs ont battu le pavé à Ouagadougou, puis ils ont tenu un meeting, des rassemblements qui précèdent la remise de la plateforme minimale au ministre en charge du travail. Les attentes des travailleurs dans ce reportage de Zoumana Wonogo.
Pour cette première fête du travail de l'après Blaise Compaoré, les syndicats, en lieu et place du cahier de doléances, ont plutôt remis au ministre en charge du travail une plateforme minimale. Suivons les grands points de la plateforme avec Bassolma Bazier. Il est le secrétaire général de la CGTB, Confédération générale du travail du Burkina.
C'est permettre à nos enfants qui sont dans les différentes universités d'étudier dans de bonnes conditions pour faire en sorte à ce que le système LMD soit suspendu afin de réunir de bonnes conditions pour sa mise en œuvre. Et le deuxième élément, c'est la relecture de la loi 013 et puis la relecture de la grille salariale pour permettre aux travailleurs d'avoir de meilleures conditions de vie. Il y a la relecture de la loi 028 également, portant code du travail, la relecture de la loi 027 et faire en sorte que l'ensemble des crimes économiques et crimes de sang ne restent pas impunis. Il faut faire en sorte qu'à l'issue de la transition, tous les pouvoirs qui vont se succéder après puissent trouver des bases solides de démocratie dans notre pays.
Après réception du document des syndicats, Augustin Loada, le ministre en charge du Travail, a dit ceci.
Je pense que ce gouvernement qui est issu de l'insurrection comprend effectivement les préoccupations des travailleurs. Mais nous allons travailler à répondre à ces préoccupations en tenant compte, bien entendu, des moyens qui sont disponibles. Vous savez bien combien le contexte économique et financier dans lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est un contexte qui est extrêmement difficile, avec des tensions de trésorerie. Nous allons faire le maximum de ce que nous pouvons en fonction de ce que ce contexte économique et financier particulier nous permet de faire.
Aujourd'hui, 1er mai, fête du travail, peut-on dire que le travailleur burkinabé est heureux? C'est la question posée au syndicaliste Norbert Wangré.
Il suffit de les voir râler. Quand quelqu'un, 5 jours, et là même je vais loin, après avoir touché son salaire, est déjà engagé dans les crédits, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il est heureux. Et si vous regardez les situations des travailleurs, au niveau des banques, vous verrez qu'ils sont très bien endettés. Et je ne pense pas que quelqu'un soit heureux d'être endetté, de ne pas avoir sa maison, de ne pas avoir un bon moyen de transport, etc.
Visiblement, il manque beaucoup de choses pour le bonheur des travailleurs. François Ouédraogo égrène ici le chapelet. À côté de tout cela, il y a une spécificité féminine que relève Madame Sabou Ouattara.
C'est vraiment, moi je me dis, deux fois le travail qu'on a bas là, bon, c'est pas à hauteur de notre salaire. Et je veux aussi, puisque au Burkina, si la plupart des hommes considèrent les ménagers comme elles ne font rien, je veux que les hommes enlèvent ça de leur tête.
Zoumana Ouanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Ici aux États-Unis, après la mort de Freddie Gray, après son interpellation par la police de Baltimore, la VOA a recueilli sur place les sentiments de familles noires de la ville et les conversations vitales qu'elles avaient avec leurs enfants. Lionel Gaïma vous résume ces témoignages recueillis sur place.
Les parents noirs de Baltimore enseignent essentiellement deux choses à leurs enfants sous la police. Christopher Martin, qui participait à une manifestation contre la brutalité policière. Je ne dirais pas que tous les policiers sont mauvais, mais tout le monde n'est pas bon. Donc la conversation avec nos enfants se rallonge. Et les semaines consécutives à la mort de Freddie Gray n'ont pas rendu cette conversation plus aisée. Le manifestant Christopher Martin était accompagné de sa fiancée Kotera Johnson et de leurs enfants âgés de 2 ans pour leur montrer ce qu'était une manifestation pacifique. Malgré tout, la mère de Martin continue de lui conseiller d'éviter les manifestations nocturnes au cours desquelles la police a arrêté des centaines de protestataires cette semaine. Avec toute cette situation encore floue, m'a-t-elle dit, reste à la maison avec les enfants, évite la rue, c'est dangereux dehors. Que ce genre de conversation soit encore nécessaire de nos jours est plutôt frustrant. Mais une enquête a montré en 2014 que la police de Baltimore a payé ces dernières années des réparations de l'ordre de 6 millions de dollars pour régler des cas de brutalité policière à l'encontre de victimes noires pour la plupart. L'activiste Michael Mullen. Ça concerne surtout l'attitude de la police. La seule chose qui change, c'est peut-être la couleur de l'enfant. Mais c'est l'attitude de la police envers cet adolescent, la manière dont elle a réagi face à lui. Chaque noir qui a un enfant, particulièrement un garçon, vous pouvez parler aussi aux filles, mais la police semble plutôt souple avec elles. Mais avec les garçons, il n'en est point question. Selon le professeur de sociologie Tanya Sharp, ce genre de conversation que les familles ont avec les enfants sur des questions comme la police sont nécessaires. Pour les parents, je pense que c'est crucial. C'est crucial qu'ils aient des conversations très franches. Bien sûr, c'est bon pour leur développement, mais des conversations honnêtes sur ce qui se passe dans leur communauté. Bob Weinhold, ancien policier à Baltimore, ces conversations devraient inclure l'obéissance aux forces de l'ordre. Les parents doivent aussi s'évertuer à inculquer à leurs enfants qu'en face d'un membre de force de l'ordre, ils doivent prêter attention à ses ordres. On doit s'assurer que l'on fait quelque chose pour désamorcer une situation potentiellement explosive. C'est cette interaction avec la police, où, point clair, c'est là que beaucoup de choses peuvent réellement se terminer bien ou mal.
Révolution dans le domaine de l'utilisation de l'électricité avec la présentation hier d'une batterie pour domicile fabriquée par Tesla, la compagnie californienne de l'homme d'affaires d'origine sud-africaine Elon Musk. La Tesla Powerwall peut stocker l'électricité produite par le réseau et les panneaux solaires. Pour des précisions, Timothée Doudangmaï s'est entretenu avec Boniface Taubé, propriétaire de la compagnie Tycoon LLC, basée dans l'État du Maryland.
Premièrement, c'est une batterie qui est basée sur le lithium. C'est un concept tout nouveau. Il est utilisé dans le tout nouveau avion de Boeing, par exemple. Je vais juste donner un exemple avant d'aller vers son utilisation à domicile. Il pèse moins, et il est facile à charger et il garde sa charge. C'est une batterie qui travaille en tandem avec le panneau solaire. Et le problème avec le panneau solaire seul, on ne sait pas à magasiner l'énergie excédente. Mais avec cette batterie Tesla, ça donne une possibilité d'emmagasiner l'énergie excédente qu'on a. Et on peut même le revendre après, si les besoins se présentent.
C'est une batterie intéressante pour les pays africains, par exemple.
Très intéressante. La plupart des pays africains sont situés dans des zones où on a le soleil en abondance, la capacité d'emmagasiner l'énergie. Le problème chez nous même avec la génération actuelle de panneaux solaires en Afrique que nous utilisons, que c'est bon, lorsqu'on a assez de soleil, on a plus d'énergie. Mais l'énergie qu'on a en excédent, on ne sait pas en faire, on les perd comme ça. Avec cette batterie, on a au moins cette capacité d'emmagasiner cette énergie et de l'utiliser le jour où on a moins de soleil, ou utiliser ça lorsqu'il fait sombre dehors, un truc comme ça. C'est hyper intéressant pour les continents africains.
Et cette batterie peut aussi emmagasiner l'électricité du réseau électrique?
Bien sûr, c'est un autre avantage. Il emmagasine l'électricité du réseau électrique et cela, ça aide les clients, que ce soit commerciaux ou les particuliers dans leur maison, à épargner entre 20-30% du coût de l'électricité.
Alors, il y a le facteur coût. On parle de 3 500 $ par batterie maison. C'est quand même une petite fortune en Afrique.
C'est une fortune, mais il ne faut pas que cela brise mon cœur, parce qu'on a déjà un précédent dans les secteurs de télécommunications et notamment les secteurs télécommunications mobiles. Lorsqu'on a commencé avec le téléphone portable en Afrique, les coûts étaient exorbitants. Il n'y avait que les hommes d'affaires qui pouvaient prendre part dans ces petits marchés. C'était carrément un luxe. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que le téléphone portable est à la portée de tout le monde et même dans les coins les plus reculés.
Boniface Taubé, propriétaire de la compagnie Tycoon LLC, basée dans l'État du Maryland.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Au Burundi, sur fond de tensions et de protestations, les responsables électoraux commencent à recevoir les déclarations de candidature.
L'ONU et la France, critiquées par le barreau de Bangui en RCA, dans le cadre des présumés viols sur mineurs par des soldats français et africains.
Violence dans le nord du Mali, une attaque attribuée à la coordination des mouvements de la Zawad aurait fait un mort hier à Bintagungu.
Ici aux États-Unis, 6 policiers seront poursuivis au pénal pour la mort d'un jeune noir à Baltimore, théâtre de manifestations violentes en début de semaine. L'annonce a été faite ce matin par la procureure en chef de cette ville de l'Est américain. C'est déjà presque la fin, Morgan.
Oui, donc cette édition a été, la mise en onde a été assurée par Lionel Gaimard, présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com. Dans quelques secondes, les dernières nouvelles du monde.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.